www.libradio.org. La radio qui vient à ta rencontre.
Nous sommes aujourd'hui le 13 avril, le samedi 13 avril depuis la fonderie Kugler, où il se passe une chose qui est le décrochage, le finissage plus précisément de l'exposition dont, Diane, merci de la nommer toi-même, puisqu'on a vu que ma prononciation était extrêmement, extrêmement mauvaise. Alors, bienvenue à toi, Diane. Tu es toi-même l'artiste qui expose, qui a également, puisque tu as plusieurs casquettes, tu as également fait de la musique avant-hier. Et là, on va parler justement de cette exposition. Alors, comment s'appelle-t-elle déjà, cette exposition ?
Snippets of a Wild and Renaissance Lady.
Et donc, voilà, il nous faudrait les explications. Que signifient ces mots en anglais dans la traduction française ?
Alors, c'est des brèves ou des fragments de vie expliqués. Snippets, c'est des petites histoires qu'on peut raconter de la vie de tous les jours. Et Wild and Renaissance, c'est parce que j'ai un côté un peu sauvage, mais au bon sens du terme, très connecté à la nature. Et Renaissance, parce que je pense qu'on oublie un petit peu trop. Aujourd'hui, on essaye de spécialiser tout le monde dans des domaines bien spécifiques. Et je pense qu'on a tous plusieurs cordes à notre arc. Oui, on dit arc.
Oui, c'est ça.
Et... et je pense qu'on a plusieurs talents, on est capable de faire plein de choses. Par exemple, au XVIe siècle, Léonard de Vinci ou Montaigne, typiquement Montaigne, il était écrivain, il était diplomate, il était fermier. Léonard de Vinci était ingénieur, mais il était aussi peintre. On a plein de capacités, mais on ne les exploite pas forcément, pour diverses raisons, des blocages psychologiques ou on n'a pas été sensibilisé. J'ai eu la chance d'avoir une éducation qui permette de toucher un peu à tout. Et j'ai pas voulu faire de choix.
Très bien, très bien. Alors, d'abord, on va rappeler pour les personnes qui sont présentes avec nous qu'un micro est à disposition, qu'il est ouvert et qu'il est là pour que vous puissiez questionner Diane par ailleurs. Voilà. Alors, on peut le dire, c'est une expérience multisensorielle à laquelle on assiste lorsque l'on vient ici à la fonderie Kugler. Il y a eu effectivement cette partie musicale, il y a eu un film et puis il y a des photos qui sont accompagnées de textes. Oui. Voudrais-tu nous dire en quelques mots comment est né ce projet ? Et puis ensuite, bien sûr, qu'on parlera des différentes singularités du projet, notamment des deux temps distincts, de l'écriture puis de la lecture par des témoins de passage. Mais allons dans l'ordre. Oui. D'où est né, comment est né ce projet ?
Alors, initialement, j'écrivais des textes sur Facebook. Depuis longtemps, mais spécifiquement sur Genève, parce que l'expo aujourd'hui, c'est sur Genève, depuis la mort de mon grand-père, donc il y a un an, il est mort le 17 avril. Et en fait, c'est pas des textes tristes, forcément, je parle très peu de mon grand-père, en fait, mais c'est des textes qui m'ont permis de me raccrocher à la vie, parce que j'étais interpellée par des moments spécifiques ou des interpellations, ou des interactions avec des personnes intéressantes. Et j'ai pris instantanément une photo et puis j'écrivais. J'ai un ami, Alessandro, qui m'a dit, écoute, il faudrait aussi que tu le mettes sur Instagram. Donc du coup, je suis sur les deux réseaux, Facebook et Instagram. Et puis, en discutant avec une autre amie qui s'appelle Danielle Tienne, qui est ici présente, discrète mais présente, elle m'a dit, écoute Diane, c'est trop bête, faudrait que tu en fasses quelque chose de ces snippets, c'est que peut-être que tu les mettes à l'épreuve de personnes qui te connaissent pas, et peut-être pourquoi pas les déposer un peu partout dans Genève, aux endroits où tu les as écrits, parce que je les ai écrits très très vite en 15 minutes montre en main. Et j'ai dit, mais ouais, génial. Et puis non seulement je vais faire ça, mais en plus on va le filmer. Et donc, du coup, on l'a fait. On l'a fait, c'était en mars, je crois, février-mars. Mais le projet, voilà, c'est une maturation sur une durée de un an, en fait. Le temps d'écrire les textes, le temps de rassembler les acteurs pour trouver un vidéaste, qui était Fouad Bagdalov. Voilà, il y a eu pas mal de... Finalement, c'était un collectif. Et puis, Louis Pinoléo m'a donné beaucoup de conseils en logistique, en installation, à comment faire. Et il m'a dit, mais pourquoi pas le faire ici à l'usine, à la fonderie Kugler. Stéphanie Pritz-Reni, qui s'occupe du lieu, m'a accueilli très chaleureusement avec Harry aussi. Donc voilà.
Donc voilà pourquoi.
Voilà, okay. L'historique.
Non, mais c'est bien, c'est intéressant. Donc, ce format-là de l'écriture, disons, urgente, ou en tout cas rapide, dans un format qui pourrait, donc, que l'on pourrait assimiler à des aphorismes, est-ce que pour toi c'est un enjeu, c'était une difficulté, c'était, ou à l'inverse, c'était quelque chose de plutôt stimulant? Et c'était ce que tu avais envie de donner, justement? L'idée de d'écrire vite, oui. Et puis dans un format qui ressemble à l'aphorisme, c'est-à-dire des récits courts, oui. Finalement.
Alors, si on remonte très loin, avant même Internet et mon accès à Internet, quand j'étais petite, j'écrivais sur des petits textes comme ça, cette taille-là. Alors, c'est quoi, 10 cm sur 3 cm. Et comme les haïkus, j'essayais de rentrer une histoire avec un début, un milieu, une fin sur ce format-là. Mais j'avais 12-13 ans quand je faisais ça. Et j'en avais écrit beaucoup. Et donc, je crois que j'ai pris la main,
ouais,
à faire ça.
Le pli.
Ouais. Et c'est revenu vers moi avec le décès de mon grand-père, mais en utilisant Instagram et Facebook, parce qu'en fait sur Instagram on est limité dans l'espace, le nombre de caractères, donc oui. J'étais obligée, pour faire une histoire avec un début, un milieu, une fin, de suivre
le format
disons, mais oui. De la contrainte naît la sublimation.
Absolument. D'où la question, en fait. C'était pour dire, c'est de la résilience. Tu fais quelque chose de cette contrainte-là de départ, et donc c'est une forme de défi d'une certaine manière,
oui.
que tu t'imposes pour, oui. Arriver. Voilà. Est-ce que justement c'est difficile de mettre beaucoup d'idées, beaucoup de sens et beaucoup de sentiments dans si peu de lignes?
Oui. C'est difficile. C'est un exercice où il faut vraiment concentrer, que chaque mot est sous-pesé, et il y a un travail de polissage. Exactement comme un haïku, en fait. Mmh. Bon, dans les haïkus, il y a 5 syllabes, puis 7 syllabes, puis 5 syllabes. Là, j'avais un peu plus de marge. Mais c'est vrai que dès qu'on dépasse, on est obligé de couper, on est obligé de tailler jusqu'à ce qu'on arrive à la substantifique moelle, à la montagne, parce que j'aime beaucoup montagne. Mais voilà.
Le choix des mots à ce moment-là, il est extrêmement décisif. Enfin, est-ce qu'on tranche à un moment donné, ouais. Comme dans un nœud gordien, tu vois, on dit bon, ce sera ça et pas ça, tant pis.
Exact. Ouais. Okay. Et il faut faire des choix et puis il faut faire un deuil.
Voilà. Mais oui, il y a un arrachement. Là.
On se fait de la castration symbolique.
Tu parles de ton grand-père, donc y a-t-il un travail de mémoire qui sous-tend cette exposition également?
Oui. Parce que sur certains textes, notamment sur sa douleur, sur sa manière de sublimer la douleur, sur sa manière de rire de la vie, c'était quelqu'un d'extrêmement vivant, brillant. Et du coup, il avait un regard que je pense quelque part il m'a transmis, où il y a un plaisir de vivre, même jusqu'au bout.
D'accord. Voilà. Et ces textes, finalement, c'est une forme d'hommage rendu, pourrait-on dire.
Oui.
Et alors, qu'est-ce que ça fait de les faire lire une année après à des personnes de passage que tu ne connais pas? Ils sont choisis au hasard, si
j'ai
compris.
Au hasard, complet.
Ouais.
Ouais. C'était très émouvant, très étrange aussi. Ce que je dis dans le film par rapport à ces passants, c'est que parfois, il y avait des synchronicités, des moments un peu particuliers où justement ces passants avaient un lien avec mes textes forts ou avec mon passé. Donc mon passé résonnait avec leur passé. Typiquement, j'ai un texte sur la douleur physique et le corps et comment sublimer la douleur, où celle qui a lu le texte était d'origine polonaise.
Oui, absolument.
C'était assez intéressant.
On verra ça au moment du film, de toute façon. Ouais. Alors, ils lisent, tu te souviens, et nous, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça?
Eh ben, bonne question. Mon idée, au départ, c'était que finalement, les textes, ils ne restent pas avec moi. J'ai découvert avec les interviews que finalement, mes textes résonnaient chez les gens aussi, ce qui peut paraître logique. Mais initialement, je souhaitais que les textes soient réappropriés par les lecteurs et leur appartiennent à travers leur lecture. Donc, quand j'ai écrit systématiquement en anglais. Et une autre personne qui a fait partie du projet, qui s'appelle Elsa, a traduit les textes en français. Et elle-même, dans ses textes en français, a transformé le texte et se l'est approprié. Donc c'était plus qu'une traduction, j'ai pas de terme pour le dire, mais peut-être une interprétation complètement différente. Même si c'est le même texte, il y avait quand même une manière de voir le texte différemment. Et donc, elle s'est approprié le texte. Donc, ça, c'est la première transformation. Et c'était génial pour moi parce qu'elle s'est approprié le truc. C'était son bébé aussi. Et puis, les passants à qui j'ai fait lire, du coup, le texte leur appartenait aussi à travers leur interprétation verbale.
Absolument, absolument. Ouais. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais au moment où ils lisent, donc il y a la partie où ils lisent le texte, effectivement, mm-hmm. où j'imagine avant ils le découvrent quand même un petit peu, et puis ensuite ils le lisent à haute voix, et puis ensuite tu les invites à commenter ce qu'ils viennent de lire.
Oui. Alors j'ai eu des réponses très variées. Voilà, ouais.
J'allais te demander ça.
certaines personnes, en fait, ils ont pas lu le texte avant. Je les ai mis, j'étais un peu dure avec eux. Peut-être la prochaine fois, je les ferai lire avant. Mais en même temps, c'était bien d'avoir l'élément brut, authentique. Et certains se sont vraiment focalisés sur bien lire, bien faire. Et donc, le contenu du texte leur a échappé un petit peu. D'autres ont réussi à sublimer la contrainte de devoir, hop, c'est comme un cheveu sur la soupe, s'y mettre. Et ont vraiment pu faire une représentation presque théâtrale. C'était magnifique. Hein. Je pense notamment à la dame au chapeau mm-hmm. au bord de l'eau qui parle des oiseaux. C'était juste très poétique. Et je l'avais pas vu mon texte comme ça du
d'accord,
tout.
D'accord. On va rappeler aux personnes qui sont ici autour de nous qu'elles peuvent intervenir à tout moment. Non, parce que je veux pas que vous soyez tout d'un coup en se disant il parle, et puis du coup on peut pas intervenir. Bien au contraire. Vous êtes invité à le faire en tout cas. Voilà, effectivement, il y a différentes thématiques qui, et d'ailleurs, dans l'exposition ici, on peut dire qu'elle est divisée en quatre grandes parties, pourrait-on dire.
Oui.
On va y revenir, mais avant ça, j'aurais voulu que tu nous en dises plus par rapport au choix des personnes que tu as interviewées. Oui. Est-ce qu'effectivement, c'était vraiment hasardeux à 100%? Est-ce que quand même, parce que d'une certaine manière, le simple geste que l'on fait en déambulant fait que l'on va être peut-être plus attiré à gauche ou à droite. Oui. Et puis ensuite, deuxième volet de la question, c'est quel retour as-tu eu? Est-ce que tu as dû, au bout du compte, sélectionner parce que les gens étaient extrêmement attirés et le faisaient très volontiers, ou est-ce que voilà, il y a eu des moments un petit peu délicats ou quoi?
Alors c'est intéressant parce que quand il y avait Daniel dans l'équipe, parce que j'ai fait deux interviews en fait, deux jours de tournage. Le premier jour, il y avait Daniel avec nous, donc il y avait Fouad, Daniel et moi. Et là, les trois quarts des personnes à qui j'ai demandé, ils ont dit oui, spontanément. Donc j'étais très impressionnée parce que je ne pensais pas que j'aurais autant de retours positifs. Et je pense que c'était lié à la présence de Daniel. Elle rassure les gens, je ne sais pas. Mais elle est très calme, très douce, très posée. Et moi, je suis un peu fofolle et un peu énergique. Et je pense que ça faisait une belle synergie.
Ouais, un équilibre, ouais, en tout cas.
Un équilibre. Voilà. Et le deuxième jour de tournage, il y avait juste Fouad et moi. Et là, on n'avait que des refus juste pour un texte. Parce qu'il fallait le refaire, parce que malheureusement, il y avait un problème de sono. Et là, j'ai eu beaucoup de refus, étonnamment.
Okay. Donc, des refus commentés ou c'est juste non, merci, au revoir? Enfin, des personnes qui sont dans
plutôt non, merci, circuit. Au revoir. D'accord. Et puis, le problème d'image, je ne voulais pas être pris sur caméra, des choses comme ça.
Ouais. Mais quand même, un peu de curiosité, oui, pourquoi?
Non.
Qu'est-ce que c'est? Ah non, d'accord.
Vraiment plus du refus catégorique, ouais. Mais par contre, le premier jour, ouais, là, c'était facile.
Un foisonnement comme
ouais.
ça. Eh ben, attends, tes moments d'écriture à toi, sont-ils solitaires ou à ce moment-là, tu les écris vite, on a bien compris, mm-hmm. un petit peu comme ça, dans un jet un peu catharsique, on pourrait dire. Hein. Mais est-ce que tu as besoin à ce moment-là justement de solitude, de déambulation? On dit, il y a deux écoles, soit la marche permet de réfléchir, soit la marche justement ne permet pas de réfléchir. De quelle école es-tu?
Ça a été les deux. Ça dépend du contexte. En général, quand la situation m'a interpellée, je tout de suite après, donc je prends la photo et j'écris. Et quand j'écris, bah, je suis obligée de me poser pour écrire les quelques lignes, parce que il y a tout ce travail de polissage et de délagage à faire, ouais. qui demande deux temps de réflexion. Donc
d'accord.
premier jet, d'écrire dans une espèce d'impulsion, et puis le temps de la réécriture, l'édition.
Ok. Et au moment où vous captez, je parle du film, est-ce que là, il y a effectivement aussi beaucoup de travail au montage après?
Alors ça, je pense que Fouad pourrait mieux répondre que moi, mais j'ai quand même participé un petit peu. Oui, parce que je demandais toujours aussi les contacts des personnes, leur autorisation et les contacts pour les inviter à l'exposition. Mmh. Et j'ai deux personnes qui sont venues.
Et quels ont été leurs retours?
Eh ben plutôt positif. Non, en plus, celui qui est venu, c'était pour le texte qui était un peu difficile à lire, le plus difficile à lire. sur un ivrogne à la laverie qui commentait sur mon beau postérieur. Et c'était un peu compliqué.
Là, on va en reparler au moment où, justement, maintenant qu'on va aborder un petit peu les différents thèmes que tu abordes. Ouais. Celui-là, on va déjà le dire, c'était vraiment un thème sur le harcèlement et la violence. Donc, effectivement, c'est un texte qui est absolument dans une laverie. Mmh. Mais tu vas nous en dire un petit peu plus tard. J'aurais voulu commencer par les lieux. Les lieux ont beaucoup d'importance pour toi, notamment les gares.
Oui.
Pourquoi ?
Pour moi, c'est un espace de transition. C'est vrai que je viens d'une famille très, très variée au niveau nationalité. Ma mère est franco-polonaise et mon père est anglo-américain. Et chaque grand-parent a deux autres origines. Donc, ça se démultiplie. Mais je suis suisse d'origine. Mon nom de famille est suisse. On a nos armoiries au château de Thun.
C'est pas dit donc.
C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et puis, en fait, chaque génération est revenue en Suisse. Pour des études, et puis moi je me retrouve en Suisse comme ça aussi. Et puis, qu'est-ce que je disais ? J'ai perdu le fil.
Parce que je t'interrogeais sur les lieux, leur importance, et notamment celui des gares
et
des trains qui sont contenus dans les gares.
Et donc, du coup, ma famille est très éparpillée.
Ouais.
Et je voyage énormément pour les voir. Et je suis toujours dans les trains. Alors, j'essaie de favoriser les trains parce que j'ai une conscience environnementale. Mmh. Et j'aime beaucoup les trains parce que c'est un espace où on peut se poser, on peut travailler, on peut lire, on peut échanger même avec les voisins. Alors souvent, je trouve qu'un voyage en train est réussi quand j'arrive à parler avec mon voisin de train et qu'il me raconte sa vie. Et souvent, les gens me racontent leur vie, donc d'où ils viennent, ce qu'ils font, et puis on a des échanges assez riches.
C'est-à-dire qu'on a des sœurs et des frères de train ?
Oui.
Et puis que c'est dans l'unicité de cette rencontre-là qu'il y a quelque chose de spécial qui se dégage.
Exactement. Et je ne garde pas forcément le contact, hein, mais c'est toujours très, très beau.
Ok. Parmi les personnages que l'on rencontre tout au long de l'exposition, il y a effectivement des entités humaines, mais il y a également des animaux, et notamment des oiseaux. Est-ce à dire que les mots sont volatiles comme les oiseaux, ou l'inverse ?
Ah bah c'est beau, c'est beau. Oui.
Alors raconte-nous cette rencontre avec les animaux, et notamment parce qu'il y a le cygne, il y a les pigeons qui se chauffent le dos, il y a différents animaux.
Mm-hmm. Oui, je crois que j'ai toujours été très attirée par les oiseaux. Le vol, leur capacité à planer, d'avoir de la hauteur. Pour moi, ça me fait rêver. Et puis, symboliquement, les cygnes, pour moi, ça représente un peu l'amour, parce qu'un cygne, j'imagine que vous savez, mais les cygnes, quand ils se mettent en couple, c'est à vie. Et c'est très, très romantique pour moi. Et j'adore le romantisme.
Très bien, très bien. Voilà. Également, le voyage est contenu dans l'opération de l'oiseau qui s'envole et puis qui... Alors, certains migrent, d'autres nagent, mais se déplacent tout de même. Oui. On va y revenir d'ailleurs à l'aube, c'est un élément extrêmement important de l'expo. Mais voilà, on peut dire que là aussi, ça fait partie d'une certaine manière du voyage. Selon toi, quels sont les moments particuliers du voyage ? Est-ce que c'est le départ, l'arrivée, le retour ou le voyage en lui-même ? Y a-t-il des moments, tu vois, des fêtes comme ça ou pas ?
Moi, ce que je préfère vraiment, c'est le voyage en lui-même. Parce que avant, je stresse pour avoir mon train, donc j'y pense pas. Et je considère que le voyage commence au moment où je suis bien arrivée à la gare ou à l'aéroport, mais c'est moins sexy pour moi. Et puis que je suis installée. Maintenant, je peux me poser et maintenant je peux commencer à observer. Et là commence le voyage. Et l'arrivée. Oui, c'est sympathique, surtout si on a des gens qu'on aime bien à la destination, mais c'est vraiment le voyage en lui-même que j'aime bien.
Ok, dans une forme d'atmosphère qui est propre au fait de se déplacer ou quelque chose comme ça ?
Oui, l'inattendu, que tout est possible. On sait d'où on part, on sait où on va arriver, mais on ne sait pas ce qui va se passer entre deux. Et il peut se passer plein de choses, et c'est ça que j'aime bien.
Très bien.
Pour ça, par exemple, que je n'ai pas demandé les questions avant pour cette interview.
C'est vrai, tu ne m'as pas demandé les questions avant. Ce que j'aurais pu te donner, puisqu'elles sont là et puis elles sont effectivement à disposition. Très bien, très bien.
Ouais.
Donc voilà, sortir des zones de confort, partir à l'aventure, quoi qu'il en soit, ça c'est quelque chose qui pour toi est central et est intéressant.
Ouais.
Parce que j'imagine que ça stimule également les univers, les imaginaires, tout ça, tout ça.
Exact.
D'accord. Alors dis-moi, passons à l'eau. C'est un élément qui est prégnant dans l'exposition. Au fil de l'eau, d'ailleurs, une partie, je crois qu'elle s'intitule Au fil de l'eau, le début de l'expo même, il me semble. Hein,
ouais.
C'est ça. Alors, quelle est l'importance de cette eau pour toi ? Est-il là un élément qui coule toujours, hein, Héraclite, tout s'écoule toujours, tout ça ?
Ouais.
Est-ce qu'il y a de ça ? Est-ce qu'on ne se baigne jamais dans la même eau puisqu'elle passe ? Enfin, vas-y, dis-nous un peu.
Ah, oui, oui. Oui, c'est bien. Tu connais toutes tes bases philosophiques, c'est bien. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que il y a ce côté philosophico, mais aussi bien-être. C'est vrai que j'ai fait Hippocagne, donc j'étais sensible à ça, à la philosophie. Mais il y a aussi l'eau à un niveau très, très
sensoriel,
primitif, nature, qui me fait énormément de bien, qui m'apaise, qui me détend, qui me permet de prendre du recul par rapport à la vie, juste le bruit de l'eau, la vue de l'eau, tout. Mmh. Et puis même l'eau, quand on se baigne dedans, quand on flotte dedans, il y a le côté maternant, maternel. Il y avait un poète qui disait « et la mer, on la mer, on partage ». Mais c'est, ouais. Mais bon, là, j'ai pas d'amertume, mais il y a quelque chose de maternel dedans, oui.
Ok. Et puis, ça me donne ma petite transition. Ça, effectivement, ça peut contenir, alléger, soulager de la douleur.
Oui.
Et la douleur, c'est également une des notions que tu abordes, oui, avec notamment liée à la maladie, liée effectivement à l'histoire de ton grand-père. Ça, c'est quelque chose qui, quoi qu'il en soit, habite notre condition humaine. À un moment donné, on est confronté à la douleur. À un moment donné, on est confronté à la mort. Oui. Voilà, c'est le fait naturel de la vie, finalement.
Oui. Oui, et à travers les textes, j'essaie de pas laisser le lecteur... J'ai ce souci-là. De laisser le lecteur dans quelque chose d'un trou sans fond où il n'y a pas de solution. J'essaie de donner mes petits outils, mes petits trucs qui font que je me raccroche ou que d'autres personnes que j'ai observées ont pu se raccrocher à la vie et prendre du plaisir quand même avec la vie.
Mmh. Est-ce que la douleur, est-ce qu'on la supporte? Est-ce qu'on la transcende même parfois? Qu'est-ce qu'on en fait, je veux dire, de cette douleur-là qui nous accable quand elle est présente tout le temps?
Alors moi, je l'ai vécue en plus. Alors je ne le dis pas dans mes textes, mais pendant 9 mois, j'ai eu un souci de santé important et qui m'incapacitait. Et pourtant, je suis quand même allée au travail, alors que normalement, les gens ne travaillent pas avec ce problème-là. Et puis, et en fait, oui, le travail m'a permis de sublimer. Je pense qu'on arrive à rire, on arrive à prendre du plaisir, à dépasser la douleur, mais ça demande beaucoup d'efforts sur soi, ça demande beaucoup de créativité. Et l'écriture, ou le chant, ou la vidéo, ça peut être une forme justement pour transcender.
Alors cette exposition, question obligatoire, hein, tu m'y conduis toi-même, cette exposition contient-elle une part de thérapie, une part de résilience, et quoi d'autre ?
Oui, alors très clairement, il y avait le côté cathartique, thérapeutique, même si voilà, je m'apesante pas sur ma douleur émotionnelle de perdre mon grand-père. Mais il y a aussi cette question de la sublimation, parce que j'ai fait des études de psycho, et j'ai 2 masters en psycho et en art-thérapie en plus.
Je vais faire une réponse de psychologue également. Le fait que tu nous révèles ceci, ouais, n'est pas d'innocent, n'est pas anodin.
Non.
Voilà, excuse-moi.
C'est vrai.
Alors effectivement, ces études de psycho, elles étaient pour toi, elles faisaient partie d'une résilience également.
Oui. Okay. Alors oui, Cyrulnik parle de résilience, mais c'est plus oui, il y a ce côté je veux me faire du bien, mais il y avait aussi ce côté je veux partager ce qui permet de faire du bien et d'ouvrir ça, pas rester dans mon petit ego, mon petit monde, ma douleur et ressasser les choses, d'en faire quelque chose de constructif qui peut me servir à moi, mais aussi aux autres. C'est un peu, voilà, si j'y arrive, tant mieux. Mais
oui. La mémoire. Oui. Tout au long de cette exposition-là, effectivement, il y a des clins d'œil, il y a des rapports à des choses du passé, à des choses du présent et également à des projections dans le futur. C'est quelque chose d'important pour toi. Il faut que la mémoire soit présente et pour construire des choses, pour aller vers quelque chose.
Je pense qu'on ne peut pas faire tabula rasa. On ne peut pas partir de rien. Je ne pense pas que ce soit très constructif de partir de rien. J'ai aussi fait une formation en permaculture. Et c'est vrai qu'en permaculture, on fait avec les moyens du bord, avec ce qui existe. Mmh. Et on essaie de recycler ou de refaire différemment ou mieux avec ce qu'il y a. Et c'est d'autant plus jouissif quand on y arrive. Et puis, un sentiment de... Oui, un sentiment de gratification.
Ouais, un sentiment gratifiant.
Très gratifiant. Ouais. Ouais.
Le corps, d'une certaine manière, est-il un récit? Est-il également une part de cette mémoire-là? Les corps qui sont abîmés, les corps qui traversent les âges et qui vieillissent ou qui sont endoloris. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là, peut-on dire qu'ils font partie d'un témoignage d'une succession de choses et du temps qui passe?
Les corps qui vieillissent et qui s'abîment, est-ce qu'ils sont témoins du temps qui passe? Oui, clairement. Je suis pas encore dans cette étape-là, je pense. Je l'étais à travers, en tant qu'observatrice, en voyant mon grand-père dépérir ou en voyant le patient Alzheimer que je
Voilà,
suis.
c'est à ça que je pensais en fait.
Oui.
C'était cette idée d'Alzheimer qui est une maladie de l'oubli
Oui.
et de la confronter à ce que toi t'essaies d'amener là avec justement dans cette notion de mémoire.
Alors en fait, il est double ce patient parce que du coup, la femme de mon grand-père, donc ma grand-mère, a eu l'Alzheimer aussi. Donc ce monsieur, il représente un peu mon grand-père et ma grand-mère, dans le sens où c'est un homme adorable, très intelligent, et les choses lui échappent, comme ma grand-mère aussi, pareil, était brillantissime. Et de les voir partir, j'essayais de les rappeler. Alors ma grand-mère, c'était à travers la musique. Quand je lui chantais Brassens, quand Margot dégravait son corsage, nanana, et puis elle n'arrivait pas à parler, mais quand Brassens fait la 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 la, elle disait la 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 avec nous. Pourtant, elle ne se souvenait plus de nous, elle savait plus qui on était, etc. Mais je la raccrochais à la vie. Je la raccrochais à quelque chose qui. Et puis on voyait qu'elle prenait du plaisir parce qu'elle avait réussi à faire quelque chose comme ça. Avec ce monsieur, il est encore assez conscient et ça c'est chouette, on peut discuter avec lui encore. Et lui, c'est à travers les trains, justement. Donc on se retrouve tous les deux à travers les trains, parce qu'il a travaillé dans ce domaine. On se retrouve tous les deux avec un plaisir commun à observer les gens dans la gare, à discuter avec eux. Donc on a des synergies intéressantes.
D'accord, on l'a pas dit, mais effectivement, tu te balades aussi dans les gares, on l'a vu, mais également dans la cité, au Paquis notamment. Pour toi, effectivement, le fait de voir déambuler des personnes et de les observer, ça, c'est quelque chose, effectivement, aussi de très stimulant, si j'ai bien compris.
Oui, je trouve ça très intéressant. Et surtout les Paquis, c'est quand même un quartier vraiment vraiment riche à tous les niveaux. Il
Absolument.
y a les meilleurs restos, il y a des personnages de films qui déambulent. Et puis il y a la prostitution, la drogue, mais il y a aussi la grande bourgeoisie. C'est vraiment particulier.
Donc d'une certaine manière, c'est également l'observation du macrocosme humain que tu pointes le long de ton exposition.
Oui.
Dis-moi, j'aimerais qu'on en termine avec les thèmes dans quelques instants. Je vais d'abord poser une ou deux autres questions un petit peu plus, voilà, triviales. C'est sur la violence, justement, et le harcèlement que tu as pu subir. Mais avant ça, j'aurais voulu savoir, et maintenant, que se passe-t-il? Cette exposition, eh bien, elle s'en va. Qu'est-ce que ça fait quand on décroche une exposition et quand on en est l'autrice? Est-ce qu'il y a un arrachement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se termine? Est-ce qu'au contraire, on se dit, eh bien, et la suite? La suite va venir. Et quelles sont ces suites, si jamais elles sont déjà un petit peu, elles t'habitent déjà un peu?
Alors au début, tout début de l'expo, même le premier jour, j'avais pas encore d'idée préconçue. Je m'étais dit, ça serait quand même sympa de proposer dans différentes villes dans le monde une expo de ce genre et de trouver des financements pour ça. Et puis comme ça, peut-être je pourrais découvrir aussi des nouvelles villes et
Ouais.
puis leur proposer ça. Et puis de fil en aiguille, le retour des personnes qui ont visité l'expo, c'est, mais là, par exemple, tu as fait la promotion de Genève. C'est vraiment génial, il faudrait que tu proposes à la ville de Genève, par exemple. Après, j'ai eu d'autres personnes qui m'ont dit oui, mais ce serait bien que tu les montres aussi dans des cafés, donc Grutli ou d'autres endroits. Je me suis dit ouais, ils ont raison,
Et oui.
pourquoi pas? Et puis, en fait, là, vous avez je crois 18 textes sélectionnés par Daniel. Mais en fait, j'en ai 250 pages.
Ah ouais, d'accord.
Donc,
Donc il y a matière, on va dire.
là, je peux en faire un livre.
Okay. Toi-même, c'est dur de dire on va révéler cette facette-là, parce que d'une certaine manière, c'est une mise à nu lorsque l'on révèle ces textes, des photos que l'on a prises et qu'on les met à disposition de tout le monde, et donc également sujet aux réactions de tout le monde. Est-ce que pourtant, ça, c'est difficile à faire, de se dévoiler d'une certaine manière?
Oui, mais comme je crois dans n'importe quel art, quand on est chanteur ou quand on est écrivain, ou peintre, il y a son monde intérieur qu'on expose. C'est pas simple du tout parce que les gens projettent énormément leur propre monde. Typiquement, quand je chantais au tout début, je connaissais pas mes textes par cœur, par exemple. Et ben, je mettais des lunettes de soleil pour pas que les gens voient que j'étais en train de lire mes partitions. Et tout le monde me disait, ah, mais en fait, tu essaies de créer une distance avec le public. Ils interprétaient des trucs mais qui n'avaient rien à voir. Et c'est pareil avec les textes écrits, c'est-à-dire que certes, peut-être que les personnes voient les mêmes choses que moi j'ai vécues, mais il y a pas mal de projections. Typiquement, j'ai écrit un texte sur un homme asiatique, sur la danse. Et puis, un des jours de l'expo, il y a un monsieur qui est venu vers moi. Il m'a dit, oui, tu dis an Asian guy, c'est une forme de racisme. Mmh. Et puis, moi, quand j'ai dit Asian guy, c'était pour rester très vague, général, géolocalisé un peu, parce qu'il était typé asiatique. Et puis, par la suite, j'ai su qu'il était effectivement asiatique. Et en plus, il est venu à l'expo, ce monsieur, après, le lendemain. Et du coup, ça m'a beaucoup travaillé parce que je suis pas du tout le genre à être, enfin, je me vois pas raciste du tout. Non, peut-être que. J'ai interpellé ce monsieur asiatique. Je dis, alors, tu as aimé mon texte sur toi parce qu'on est amis maintenant. Et il dit, ah ouais, c'est super, j'ai adoré le texte, très bien et tout. J'ai dit, rien qui t'a choqué dans le texte. Il dit, non, rien. Et c'est vrai qu'après coup, je me suis dit, ben. Si quelqu'un me décrivait comme européenne ou caucase, venant du Caucase, typée caucasienne, bah, ça ne m'aurait pas choquée. Mmh. Alors, je pense que c'est comment, d'où on vient, comment on vit les choses. Et ce monsieur qui n'était pas content de ce texte, eh ben, lui, il était d'origine méditerranéenne, mais côté... comment pas dire qui c'est. Mais il m'a dit d'où il venait. Et d'accord. Puis, il se sentait... Je pense que c'est une population qui, à l'étranger ou en Europe, vit les choses difficilement aussi. Donc, ils sont plus sensibilisés à ce type de description.
D'accord, ils sont donc stigmatisés.
Oui, voilà. D'accord. Donc, après, chacun vit les textes différemment.
Absolument. Voilà. Et c'est là aussi l'intérêt. C'est que les gens, comme on l'a dit au début, tu l'as très bien dit, les gens s'approprient le fait et ça devient de l'art également. Parce qu'il y a cette transcendance et cette continuité-là. Sans arrêt renouvelé, hein. Là c'est pas ça, tu sais.
Mais j'ai une copine qui ne me connaissait pas du tout sous l'angle de l'écriture, et elle a lu tous mes textes, et elle m'a dit, mais Diane, ça m'a vachement touchée ce que tu as écrit, parce que je me suis vue dans tout ce que tu as dit, et j'ai les mêmes réflexions, mais je ne les ai pas forcément formalisées. Mais j'ai vécu les mêmes choses. Et ça, j'ai trouvé ça chouette, parce que du coup, j'ai créé un nouveau lien avec cette amie, et je la vois me regarder différemment.
Absolument. Parce qu'effectivement, il y a la musique avec le concert dont tu es la chanteuse. Mm-hmm. Il y a le film, il y a les photographies et il y a les textes. Mm. Donc, ce qu'on a dit, hein, une exposition multisensorielle, ça, c'est un projet qui, dès le départ, existait sous cette forme-là, ou c'est au fur et à mesure, chemin faisant, que tu t'es dit, en fait, j'ai envie d'un truc plus complet, plus holistique, et puis du coup, d'y ajouter des choses différentes.
Ah, c'est intéressant comme question, parce qu'en fait, je le chante que depuis un an avec ce groupe, et ça date à peu près du même moment quand mon grand-père est mort, parce que mon grand-père était mon plus grand fan. Il m'a toujours dit, Diane, il faut que tu chantes, Diane, il faut que tu chantes, Diane, il faut que tu chantes. Et je ne chantais pas. Et du coup, quand il est décédé, bah, ça m'a pris comme une envie de pisser. Je dis souvent, ce n'est pas très classe, mais j'ai commencé à faire des mini-enregistrements de morceaux avec mon dictaphone et YouTube sur mon ordinateur. Mmh. Et chaque semaine, je chantais et puis je postais sur Facebook et puis je demandais à mes amis de me demander de chanter un morceau. Et la semaine après, je chantais ce morceau et je le mettais sur Facebook. Et à force, j'ai un ami qui est ici aussi à l'usine Kugler, Philippot, qui m'a dit « Ah, mais je connais quelqu'un, il cherche une chanteuse. » Donc, les écrits se sont faits en même temps que ma formation à ce groupe de jazz manouche. Donc, c'était vraiment ensemble. Donc, ça faisait sens qu'on se retrouve tous ensemble avec ces écrits ici pour l'expo.
Ok. Le jazz manouche, ça paraissait évident pour toi ?
On fait plus du swing jazz swing manouche. Mmh. J'ai une formation de chanteuse lyrique à la base. J'ai 3 octaves. Et en fait, les morceaux que je publiais sur Facebook étaient plutôt côté jazz. Et donc, et c'est très proche en fait, parce que Django Reinhardt, le père du swing manouche, prenait souvent des vieux standards et puis les faisait swinguer. Mmh. Et j'aime beaucoup le swing manouche. Pourquoi ? Parce que ça représente la vie. Il y a autant un petit peu de nostalgie que quelque chose de vivant, pétillant et joyeux. Et je trouve que voilà, la vie, elle est comme ça. Et puis il y a la philosophie manouche aussi derrière que je commence à peine à connaître, mais de ce que j'ai compris, je trouve ça très beau. C'est que tout le monde peut commencer à un niveau débutant avec des professionnels et on joue tous ensemble et chacun se tire vers le haut en fait. Et c'est pour ça notamment que pendant le concert, il y avait pas mal de personnes qui venaient de Epi ou de Cap Loisir Et on a intégré une chanteuse de cap loisir et c'était génial. Mmh. Elle a performé, mais grave, elle était géniale.
C'est d'ailleurs extrêmement intéressant de voir que pendant le concert, et c'est très bien que tu le cites, effectivement, ces personnes à mobilité réduite étaient là et se sont senties immédiatement confortables, non seulement à danser,
ouais,
mais à intervenir jusqu'au moment où elles ont, cette personne en tout cas vous a accompagné.
Oui, sur Otecharnaye. Ouais, ouais.
C'est assez fantastique de voir la bienveillance qui règne en tout cas et le confort pour tout le monde. Alors, revenons à un sujet un petit peu plus, carrément plus dur, c'est celui de la violence qui conclut d'une certaine manière cette exposition avec cette expérience dans l'Avry, au Paki. Voudrais-tu nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et comment était ressenti par rapport à ça? J'ai laissé un petit
à
peu...
À la
mais,
fin
voilà, mais à un moment donné, il faut quand même le dire.
Ouais. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas de machine à laver le linge chez moi, donc je vais... au Paki, dans une laverie. En général, ça se passe très bien. Je rencontre des gens super, de milieux très différents. Et je papote, évidemment, parce que je ne peux pas m'en empêcher. Mais là, je n'avais pas trop envie de parler à ce monsieur parce qu'il sentait vraiment clairement l'alcool. Et puis, il n'arrêtait pas de m'interpeller. Tu veux que je lave ton linge? Tu veux, est-ce que tu es célibataire? Tu es mariée? Tu ne veux pas sortir avec moi? Je dis, non, non, non. Et puis, il ne comprenait pas, il continuait. Et puis à un moment donné, je me retourne et puis je mets mon linge dans la machine et je me baisse du coup. Et puis là, il me dit « Ah, oh, j'aimerais trop baiser ce cul !» Enfin, c'était vraiment vulgaire et pas agréable. Et c'est pas la première fois que j'entends ça, je suis pas choquée. Je veux dire, j'ai 37 ans, fin avril. J'ai l'habitude, malheureusement, mais c'est quelque chose qui est très déplaisant au quotidien. Puis j'avais pas envie de me laisser faire et quelque part écrire ce texte, ça m'a permis de me défendre aussi. Puis je l'ai pris en photo, mais de dos, parce que je voulais pas avoir de problème. et puis c'était une manière pour moi de dire, ok, tu fais ça, mais voilà, j'en prends acte. Et puis j'en fais quelque chose. Et puis je me laisse pas faire. Et le fait de le faire lire à quelqu'un par la suite, qu'on verra dans le film, c'était extrêmement cathartique parce que ce monsieur qui a lu le texte, il était... bienveillant, ouais. Classe, sympathique. Et il est venu à l'expo aussi. Il est venu et il s'est vu filmer. Il a trouvé ça super intéressant. Et puis il a vu tout le bien qu'il avait fait. C'est chouette.
Très bien. Donc ça se finit d'une certaine manière quand même relativement bien.
Oui. Et quand j'y retourne, maintenant j'y vais le cœur léger.
dans la même laverie.
Voilà.
Ouais. Bon, ben, ça, c'est bien également. Alors voilà, on arrive doucement au terme de cet entretien. À nouveau, je me tourne vers les personnes qui sont là et je vous rappelle que le micro est à disposition. Et que voilà, moi j'ai quelques questions un petit peu triviales pour en terminer. C'est effectivement, y a-t-il un site internet ou une adresse de contact? Y aurait-il un appel à lancer pour justement procéder plus loin avec cette exposition et d'autres projets?
Oui. Alors, j'ai mis sur Facebook, il y a un titre de Facebook qui s'appelle Snippets of a Wild and Renaissance Lady. Donc on peut me trouver là. Sur Instagram aussi, je m'appelle Wild and Renaissance Lady. Donc je mets beaucoup de photos et puis les textes. Il n'y a pas forcément des photos avec des textes, mais tous mes photos textes sont dessus. Et puis il y a le site sur Instagram et Facebook de Rude Egard, mon groupe de swing manouche, RUDE espace Egard EGARD. On est aussi sur MX3. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et puis sinon on peut me contacter via mail hein, diane.eny, donc HE2NY @gmail.com.
Très bien. Et alors, quelles sont tes aspirations pour la suite des événements? Est-ce que à présent tu es à la recherche de d'espace ou pas tout de suite parce que tu es en train de mûrir un autre projet ou qu'en est-il?
Ah oui, je suis ouvert à d'autres espaces.
À toutes propositions,
oui, oui.
D'accord. Oui, oui. Exposition, table ronde ou des choses comme ça?
Avec grand plaisir.
Très bien. Et quant à la forme et au fond de tes aventures, là également, quelles sont les aspirations qui t'habitent en ce moment? Est-ce que, voilà, typiquement, on a parlé de la musique. Est-ce que là, tu te dis, ah, mais on pourrait intégrer... Bah, là, tu parlais d'intégrer une accordéoniste,
hein,
c'est
ouais,
ça
ouais. Ouais.
Enfin voilà, quelles sont les suites à donner?
Alors, on a beaucoup de concerts, ils sont tous sur Facebook, régulièrement. En fait, on a un ou deux concerts par mois et on travaille tous à côté, donc on est impressionnés. On est arrivé à notre maximum pour l'instant des capacités, mais on est partant pour à chaque fois qu'il y a une proposition, on essaie de les inclure. Je pense que ce qui me botte le plus là, c'est on va faire les aubes musicales en août.
Au Paquis, au Bonnet Paquis. Yes. Oh, magnifique.
Yes. En août, le 28 août, si je ne me trompe pas. Et ça, j'ai toujours adoré y aller moi en tant qu'observatrice. Donc voilà.
C'est mais magnifique, hein, ouais.
On a une accordéoniste effectivement qui a rejoint le groupe. Elle est en train d'intégrer le groupe, donc elle va faire ses prochains concerts. Je pense qu'elle sera là pour les aubes musicales. Elle est juste magnifique. Et puis oui, on aimerait se développer, on aimerait faire des festivals, on aimerait aller se produire davantage. Et on a apparemment un de nos morceaux qui a intéressé la RTS, donc voilà.
En tout cas, l'appel est lancé. Si jamais des personnes sont intéressées de vous proposer des... Y a-t-il des lieux comme ça, un petit peu clés, dans lesquels tu aimerais aller te balader, des lieux un petit peu singuliers? Par exemple, je pense aux toitures, puisqu'on en a parlé, et on en reparlera pour d'autres choses d'ailleurs.
Oui.
Mais voilà, des toitures ou des lieux un petit peu insolites comme ça.
Nous, on préfère, enfin, si on peut, on préfère les lieux insolites. C'est vrai que le swing manouche, c'est magique, je trouve, comme atmosphère. Ça parle à tout le monde. Et ça crée des atmosphères assez singulières. Et donc, on a déjà joué à la jonction, la buvette, on a joué dans une yourte à Prix, on a joué dans des endroits vraiment très spéciaux. Donc, les toitures en plus, ça, c'est, on n'a pas encore réussi à faire. Je crois qu'on va en faire une terrasse à Hermans bientôt, là, en mai. Donc, oui.
Très bien, très bien. Et l'écriture, c'est quelque chose qui est en perpétuelle agitation, où il y a des moments de pause, ou est-ce que tu as un carnet avec toi et puis à tout moment tu
téléphones? C'est sur mon téléphone direct sur Instagram.
Ouais.
Et je le fais en fait en moyenne une à deux fois par semaine.
D'accord, donc voilà, ça c'est quelque chose
maintenant.
Okay. Ouais, bah, tu t'y astreins depuis... ou c'est que ça surgit comme ça, ou tu t'y astreins quand même? Est-ce que ça nécessite une certaine discipline, ou est-ce que c'est toujours encore de l'ordre de l'intuitif, de l'instinctif?
Ben, c'est surtout Alessandro qui m'a motivé. Il m'a dit non, mais Diane, il faut que tu fasses ça régulièrement. Et puis j'ai pris le pli à le faire. Et puis surtout, c'était suite au décès de mon grand-père, j'avais besoin, parce que j'avais pas les moyens de me payer un psy, et en même temps je sentais que j'avais besoin de sortir des choses et de m'exprimer.
Est-ce que tu tiens un journal intime? C'est quasi la dernière question. Tiens-tu un journal intime?
Bah, c'est mon journal intime.
Voilà, très bien. Et puis pour en finir là, alors peut-on appeler ça une exposition ou plutôt une expérience?
J'aimerais que ce soit plutôt une expérience pour les gens. Ah, voilà. Ça serait chouette pour moi.
Diane, je te remercie beaucoup. Y a-t-il une question qui surgirait ou pas? Non? Alors, ça veut dire qu'on a été relativement exhaustif, en tout cas, je l'espère. Je te remercie beaucoup, Diane, et puis bonne continuation à toi. Et puis nous, on se retrouvera pour d'autres sujets, puisqu'effectivement, on ne l'a pas dit, mais tu t'occupes également de permaculture et de différents projets.
Une association qui s'appelle Terrasse sans frontières, que je préside, oui.
Voilà, dont on reparlera bientôt.
Ouais.
Merci à toi.
Merci à toi aussi.
Radio Noctambule, au devers du tintement des lucioles, sous le bruissement des feuillages, se dissimulent brasiers, tumulte et sédition. Libre Radio, le message derrière le message, derrière le message. www.libradio.org